Alors, pour ceux ou celles qui ne te connaissent pas encore, Baldé, présente-nous l'artiste pour l'auditoire de Radio Centre-Ville.
Alors, comme tu as pu dire, il y en a beaucoup qui m'appellent Baldé. Je suis dans le développement de la culture, notamment les arts, de la scène, l'animation de groupe. Et je fais de l'accompagnement aussi, mais toujours par le biais de l'action artistique. Donc, l'art, c'est l'outil que j'utilise dans la plupart de mes interventions, que ce soit des interventions professionnelles, que ce soit des informations plus dans le milieu social. Et dans cet outil artistique, les ingrédients qu'on retrouve souvent, c'est le conte, l'outil du conte et de l'introspection. D'ailleurs, c'est ce qui m'a amené à écrire mon tout premier livre, qui d'ailleurs s'intitule L'enfant derrière le miroir.
Justement, on a envie d'en parler. L'enfant derrière le miroir, un livre qui se transforme carrément ou qui va être adapté sur scène le 25 septembre. En termes de substance, de contenu, c'est quoi exactement qu'on peut découvrir dans ce livre pour les curieux qui aiment lire d'abord avant le spectacle?
Alors, le livre, c'est d'abord un hommage à l'Afrique, un hommage qui permet ici une personne qui est africaine ou qui ne l'est pas de redécouvrir des concepts qu'il peut utiliser dans son développement personnel ou le développement de son bien-être. Et ensuite, c'est un livre qui aborde la beauté de Montréal. On parle beaucoup aussi de la culture haïtienne dans le livre, des conversations avec les chauffeurs haïtiens qui nous racontent Haïti. Et aussi, le livre, finalement, donne la possibilité à toute personne qui se sent dans un état dépressif de pouvoir écouter les messages de sagesse d'un enfant derrière le miroir qui est là pour accompagner, finalement, les personnes qui vont lire le livre.
Ce livre a été récemment, ou je ne sais plus, Baldé, tu pourras faire la précision pour nous, a été adapté pour être joué sur scène. Donc, désormais, le 25 septembre, tout le monde sait qu'on a rendez-vous avec le théâtre musical L'enfant derrière le miroir. L'idée était venue d'où, d'adapter? Est-ce que c'était une demande des lecteurs ou est-ce que c'est toi qui as bien voulu le présenter sous d'autres formes pour ceux peut-être qui n'aiment pas lire?
Alors, l'enfant derrière le miroir, pour moi, a été un processus qui m'a permis de sortir d'état dépressif. Ça m'a permis d'atteindre des objectifs personnels et professionnels. Et je trouvais que le fait de le garder uniquement dans un livre était comme finalement de garder enfermé cet enfant qui est derrière le miroir et qui pourrait être utile, qui pourrait nous permettre d'aborder des questions comme la santé mentale. Donc finalement, l'adapter en théâtre musical permet aux gens de mieux expérimenter la démarche qui est dans les livres, mais aussi permet aux gens de voir comment on peut partir d'un enjeu artistique, comment on peut partir d'un concept pour parler de sujets tels que la santé mentale, parce que c'est là qu'il est question pour le 25 septembre, c'est que nous utilisons le théâtre ici de façon engagée par le biais des jeux de rôle des comédiens, par le biais de la danse et de la musique pour aborder la question de façon subtile en ce qui a trait à la santé mentale.
Santé mentale, justement, on sait qu'on a besoin de développer ce sujet de plus en plus. On en a besoin. Il faut qu'on en parle parce que on sait que généralement pour les communautés noires, c'est encore un sujet qui reste tabou. C'est pas toutes les fois qu'on en parle. Donc, toi-même, tu as choisi de non seulement, comme tu l'as dit tout à l'heure, de le traiter de manière subtile, mais le traiter sur scène. En plus, tu as décidé également d'y ajouter de la musique et de la danse. Pourquoi?
Parce que déjà là, communique l'essentiel sans passer par un filtre de logique. Une personne qui va écouter une chanson, ça va lui faire penser à autre chose. Versus quand on va peut-être tous lire le même texte, et là on va commencer à dire, oh, moi je suis plus pour. Donc c'est beaucoup plus facile d'unir les gens quand on utilise un médium artistique qui communique l'essentiel, sans passer par un filtre de logique ou un filtre qui essaye d'expliquer ou d'interpréter quoi que ce soit. parce que la même musique, 100 personnes peuvent l'écouter et l'interpréter différemment. Mais on sera beaucoup plus amené à écouter l'interprétation, même quand ça ne va pas de pair avec notre façon de penser, versus ce qu'on peut lire, toucher, ce qu'on peut se rapprocher, comme on dirait un texte. Là, c'est encore plus difficile, versus ce qui se passe sur la scène. C'est vu, c'est perçu selon le niveau de conscience du public, selon la perspective du public et selon là où la personne qui est dans le public est rendue au niveau de son développement dans la vie de tous les jours.
Là, il y a quelque chose d'or hein, que tu viens de souligner, le fait de parler d'interprétation. Il y a mille interprétations d'une œuvre. Mille façons de voir une pièce de théâtre, d'interpréter un tableau, ça c'était beau. Mais il y a quelque chose qui m'a attiré aussi dans la répétition que j'ai vue hier. Et en tant que directrice artistique de ce projet, moi c'est le personnage central qui m'a surtout intéressé parce qu'il n'a pas de nom. Donc ça veut dire que ce personnage central peut être n'importe qui, peut être n'importe où aussi. Et pourquoi avoir fait ce choix de ne pas le nommer, le personnage?
Tout simplement parce que l'idée, c'est que la pièce puisse parler avant tout aux adultes, à l'enfant qui sommeille en chaque adulte. Et là, déjà, ça, c'est un concept que beaucoup de personnes, quand on parle des communautés culturelles, c'est pas un terme qui est intégré, mais on sait qu'on a tous eu une enfance, c'est ce qu'on a d'un point commun. Maintenant, quand l'adulte qu'on est peut avoir la possibilité d'écouter un enfant lui parler, il y a une plus grande ouverture. Et dans ce texte, on a préféré garder juste le fait, la symbolisme de l'adulte pour que tout le monde puisse s'y retrouver, pour qu'on ne voit pas des questions d'ethnie, des questions de couleur, des questions de religion, des questions culturelles, qu'on voit juste l'humain dans sa singularité et que la personne qui est dans le public, cet adulte ou même celui-là qui joue le rôle principal de l'adulte, puisse partager un message, puisse quelque part... Le rôle et qu'est-ce qu'il amène sur scène devient un peu comme quelqu'un qui vient avec une problématique et on repart de là avec des solutions, avec une solution collective. Parce que chaque personne va regarder, chaque personne va s'approprier le contenu ou pas, et chaque personne va se rappeler finalement que la santé mentale, elle est beaucoup plus proche qu'on ne le pense. Et que peut-être que la personne la plus proche à côté de nous, c'est quelqu'un qui a vécu des situations difficiles, c'est quelqu'un qui a eu des moments très difficiles, mais très souvent, on n'est pas suffisamment outillé, on ne sait pas quels sont les bons mots à avoir à ce moment-là, on ne sait pas quelle est l'attitude. Et la pièce, ici, donne la possibilité d'ouvrir la conversation. La pièce, ici, vient outiller, que ce soit par la danse, que ce soit dans la conversation, que ce soit dans les métaphores et le texte qui est utilisé, les gens comprennent, ok, peut-être que je connais une personne qui réagit comme ça, mais toutes les fois où cette personne m'a parlé de cette façon, je n'ai pas su quelle était la phrase que je devais lui dire. Je n'ai pas su quelle était l'approche que je devais avoir envers elle. Mais surtout, quelle approche je devais avoir envers moi-même. Parce que finalement, au sorti de ce théâtre musical, on se rend compte que quel que soit le type de problème qu'on vit nous-mêmes quand on parle de santé mentale, il se peut qu'on ait des outils intérieurs qu'on peut développer pour nous aider à aller mieux en attendant que le plus grand groupe soit disponible pour nous écouter.
L'enfant derrière le miroir, ça sera pour le 25 septembre. Je vais revenir au personnage parce que j'ai des questions qui vont avoir un rapport au personnage et à la personne aussi qui porte le personnage. Parlez-nous un peu de la distribution au niveau de ce théâtre musical. Je sais qu'il y a des artistes qui collaborent avec toi dans ce spectacle, donc... Je pense que c'est le moment de les faire découvrir et de dire c'est quoi leur rôle particulièrement au niveau de cette production.
Alors tout d'abord, on a le coup de cœur de toute la production qui est l'enfant derrière le miroir qui est joué de façon naturelle, de façon spontanée par Aza Kaona, Romy Dauphin, qui est une étoile naissante sur la scène artistique montréalaise. Elle a déjà participé avec moi à des projets intérieurs, mais c'est la première fois qu'on se lance ensemble dans une aventure comme celle-ci. Et ensuite, on compte avec la collaboration de Rebecca Jean. Rebecca Jean qui est très connue sur la scène montréalaise. Elle est à la fois auteure, compositrice, interprète et réalisatrice. Rebecca Jean est d'origine haïtienne. Et dans cette collaboration, elle amène sa touche authentique, sa touche à la fois exotique et puis elle réussit à communiquer les émotions les plus fortes, les émotions les plus joyeuses et finalement elle communique l'essentiel grâce à la profondeur de sa musique dans ce projet. Et ensuite, pour ce qui est du côté de la danse, on compte la collaboration de 6 autres interprètes qui sont chorégraphiés par Fabien Sidiro, qui est le promoteur et le propriétaire du concept Coco Carnaval. Et on compte parmi ses collègues, les autres interprètes, Lucas Bellard, Juan-Sébastien Royot, Nogaï Dubois, Castel Josuam et Olivia Jean-Floré. La particularité, c'est que toutes ces personnes ont tous évolué, ont tous grandi dans le milieu de la danse et ont une relation particulière quand il s'agit de la question de la santé mentale. Donc toutes les personnes qui sont réunies expriment à leur façon et jouent le rôle qui leur est attribué, mais en y intégrant leur sensibilité par rapport à la thématique.
Intéressant. Rebecca Jean, que je connais aussi assez bien, c'est une excellente... En tout cas, on a collaboré sur un spectacle ici et c'est vraiment une artiste formidable. J'ai eu la chance également de regarder lors de la répétition les danseurs et j'ai compris aussi par rapport à ma vision personnelle que ce soit... Enfin, les danseurs sont le personnage éclaté en mille morceaux. Est-ce que je me trompe?
Absolument pas, c'est vraiment, c'est en plein que ce que tu dis, les danseurs sont carrément un personnage en soi.
Ok, on va revenir au sujet de la santé mentale. Est-ce qu'il y avait chez l'auteur d'abord ce besoin, cette nécessité de traiter le sujet pour aider les autres? Est-ce que c'était ça qui t'a motivé pour écrire ça ou... Dans ton environnement, tu sentais aussi que c'était un, je sais plus, besoin ou nécessité. Essaie de m'expliquer un peu pourquoi avoir choisi ce sujet particulièrement, puisque moi personnellement, j'ai été ému et touché par le personnage, le sujet en gros. Et ce que j'aime dans ce que j'ai vu, c'est que il n'y a pas de leçon de morale, il n'y a pas de cliché à chacun de voir et d'interpréter.
Alors, il faut dire que les derniers mois, nous avons tous été confrontés par une crise sanitaire qui nous a affectés, que ça soit au niveau des activités, des finances, des relations, mais qui nous a surtout affectés, même au niveau, je dirais, de notre relation avec nous-mêmes. Beaucoup d'artistes se sont retrouvés confrontés dans une situation à laquelle ils ne sont pas habitués. Tu es artiste toi-même, tu es metteur en scène. Les artistes ont besoin d'une scène. Un artiste qui crée et qui ne peut pas exploiter son potentiel de création ou qui ne peut pas montrer ce qu'il a créé, qu'est-ce que ça cause, ça va aller créer des conflits, ça va développer des anxiétés, des troubles, toutes ces choses-là qui sont peut-être moins comprises, mais qui existent réellement. Et certains artistes autour de moi, c'est un peu ce que j'entendais quand j'avais la possibilité de parler avec certains. Il y en a qui me disaient, j'ai l'impression que je danse pour rien. J'ai l'impression que mon art n'est pas utile. J'ai l'impression que ce que je fais, je n'ai pas la capacité d'influencer ou d'avoir un impact autour de moi. C'est comme si après le confinement, on va tous être oubliés. On va tous être remplacés. En ce moment, les gens sont beaucoup plus sur les réseaux sociaux. Les gens ne viendront même pas nous écouter parce que le monde a changé. Donc, très souvent, quand tu vas écouter ce genre de message, étant moi-même artiste, bah, je vais me poser la même question. Je vais me dire, effectivement, à cette époque où les choses ont évolué, où on a tous été confinés, comment, de quelle manière revenir sur la scène, mais de façon à laisser une empreinte? De quelle manière revenir sur la scène et rappeler au public que les artistes aussi ont un impact, les artistes aussi influencent le développement d'une société? Parce que, on le sait, à la fin de la journée, un médecin, quand il va rentrer à la maison, il va écouter peut-être une musique, c'est ça qui va lui faire du bien. Mais quand une crise sanitaire comme la COVID qui a ravagé beaucoup de choses autour de soi, combien d'espaces sont en ce moment disponibles qui nous permettent réellement de retrouver des artistes sur scène? Mais surtout, combien d'espaces mettent en l'honneur ou mettent ou rendent hommage ces enjeux, ces émotions qu'on a vécues dans un même théâtre musical? On retrouve tout ce que quelqu'un aurait pu vivre dans un état en tant que confiné, qu'il ait développé une maladie mentale ou pas. On a tous ressenti un doute à un certain moment. On a tous ressenti le rejet. On a tous été perplexes. On s'est tous dit qu'on changerait de vocation. On s'est tous réinventé pour trouver un autre métier qui peut-être serait le nôtre. On s'est tous réinventé une vie. On s'est tous créé finalement une amitié avec soi-même parce que nos relations, à un certain moment, on sentait qu'on s'est éloigné. Et c'est finalement toutes ces émotions qui ont été vécues le temps d'un confinement qui sont ici mises ensemble pour donner ce qu'on appelle le théâtre musical, l'enfant derrière le miroir, où l'adulte qui passe par toutes ces émotions est habité par un monde où des gens dansent, qui est habité par le personnage de Rebecca Jean, qui est la nuit. On sait que la nuit apporte de l'espoir à certaines personnes. La nuit peut aussi apporter le doute. Mais quand il y a la nuit, on sait que le jour va finir par arriver. Donc c'est un ensemble de toute cette diversité de petites choses que chacun, en tant que public, pourra venir et pourra choisir ce qui lui parle, pourra choisir ce qu'il le faut. Finalement, c'est un théâtre musical qui est un peu comme un marché éphémère, où tu arrives là et tu peux choisir. Tu peux choisir selon ce dont tu as besoin au moment où tu es dans la salle pour regarder le spectacle.